9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
C'était en fin d'après-midi, un jour de mai 1821, en pleine automne australe, il y a près de 200 ans donc. L'ex-empereur des Français mourait, une mort lente, une mort douloureuse. Napoléon Ier décédait enfin, lui qui avait si souvent manqué de mourir au cours de sa vie, d'où ce terme « enfin ». Il avait défié la mort, il l'avait même cherché, elle lui servait alors, pensait-il, à révéler sa bonne fortune et sa destinée, à asseoir son autorité puis son pouvoir et enfin à construire sa légende. Évoquer la mort pour mieux raconter la vie de Napoléon, c'est l'idée, l'argument d'un documentaire diffusé demain soir sur Arte. Bonjour Mathieu Schwartz.
Bonjour.
C'est vous qui avez écrit et réalisé ce doc « Napoléon, la destinée et la mort ». Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet angle ?
J'avais envie d'essayer de faire un peu un portrait psychologique de Napoléon, ce qui est un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il pense. Et en fait, c'est ma productrice, Agnès Molia, qui m'a dit « tu devrais regarder ». Elle connaissait mieux Napoléon que moi à ce moment-là. Elle m'a dit « pour moi, Napoléon, c'est un peu comme Jacques Bauer, le héros de 24 heures. C'est un type, il meurt jamais, il s'en sort tout le temps. » Elle dit « tu devrais regarder de ce côté-là ». Et donc, effectivement, j'ai commencé à creuser ce sillon. J'en ai assez vite parlé avec des historiens, notamment avec Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, qui était notre conseiller historique sur ce projet. Mmh. Et m'a dit, effectivement, c'est un truc intéressant. Napoléon, effectivement, défie la mort. Il y a quelque chose dans sa relation avec la mort qui est assez intéressante parce que finalement, ça lui permet de construire sa légende. C'est un type qui est persuadé qu'il a une destinée très tôt. Et finalement, quand il rencontre quand il affronte la mort, c'est une façon pour lui de voir finalement eh bien, si sa mission est terminée ou pas.
Et oui, et il a frôlé la mort, Napoléon, à plusieurs reprises. Vous en relevez pas moins de 6, des batailles, un attentat à la bombe, une tentative de suicide, j'ai découvert ça, on va y revenir. Il a passé sa vie, vous venez de le dire, à construire sa légende à travers ce rapport à la mort. Il la défie, on vient d'en parler. Intervient alors une notion fondamentale. Pour bien comprendre sa psychologie et ses actions, c'est son rapport à la chance. C'est ce que vous dit Patrice Guénifet, c'est l'un des 6 historiens que vous avez interrogé dans ce documentaire.
Il croit à la fortune, avec une majuscule, avec un F majuscule. C'est-à-dire que tant que la fortune sera avec lui, il ne craint rien. Et il est convaincu que la fortune restera avec lui tant qu'il ne sera pas arrivé au terme, comme il dit, de son destin, de son histoire. C'est un homme très rationnel, c'est un homme très calculateur. Mais en même temps, cette part de rationalité est tempérée par une irrationalité qui est celle d'un joueur. C'est aussi quelqu'un qui est prêt à tout miser sur un coup, au risque de tout perdre.
Tout miser sur un coup, c'est ce que fait Napoléon en novembre 1796 lors de la fameuse bataille du pont d'Arcole, bataille de la campagne d'Italie. Il est alors seulement le général Bonaparte à la tête de l'armée révolutionnaire. Factuellement, que s'est-il passé ?
Alors, Arcole, c'est intéressant parce que à la fois, effectivement, ça montre son rapport à la mort et ça montre son rapport à la légende. Qu'est-ce qui se passe à Arcole ? Arcole, bon, il doit traverser un pont, c'est un peu compliqué, il y a des ennemis en face, etc. Il prend lui-même la tête de la troupe, des soldats, et donc il se met en danger, et en fait cette traversée du pont d'Arcole est un échec, c'est-à-dire qu'effectivement il part à la tête des soldats, il va tomber dans la boue, plus ou moins s'évanouir, il va être sauvé par son frère, les soldats vont reculer et le pont ne va pas être traversé. Il sera traversé, mais quelques jours plus tard, avec des renforts, et c'est pas lui qui va le traverser. Mais en fait, cette traversée du pont d'Arcole va rester le moment le plus important, celui dont on se souvient de toute la campagne d'Italie.
Et ce que je découvre grâce à vous, c'est que ce que je prenais pour une victoire était en fait une défaite, mais il en fait une victoire.
C'est ça. C'est tout l'intérêt. Il traverse le pont d'Arcole, et en fait, il ait bravé la mort, qu'il ne soit pas mort, etc., ça lui permet de construire son invincibilité et il va construire sa légende. C'est-à-dire qu'il va notamment faire un tableau. Par le peintre Gros, qu'on connaît, qui est le tableau où on le voit tournant la tête comme si c'était une sorte d'allégorie de l'histoire. Et ce tableau, il va en faire un élément essentiel de sa promotion, alors qu'en fait, c'est une défaite.
Et puis on a une émission média ici aussi, il écrit des textes très élogieux dans un journal, le Courrier de l'armée d'Italie.
Oui, parce qu'en fait, Napoléon, c'est sans doute peut-être un des premiers grands propagandistes, peut-être le premier grand propagandiste moderne. Et donc effectivement, il a conscience dès le départ qu'il doit construire son image et sa légende. Vous savez, il a compris très vite qu'il ne fallait pas seulement faire, mais il fallait le faire savoir. Donc il y a d'abord effectivement ces courriers qu'il envoie à ses soldats dans l'armée d'Italie où il dit « je vais plus vite que l'éclair, je frappe plus fort que la foudre ». Enfin, il ne dit pas « je », il dit « Bonaparte », mais en fait, c'est lui qui écrit les textes, ouais. C'est ça, on a des brouillons, on sait que c'est lui qui les a écrits.
D'accord.
Ensuite, il y a tous ces tableaux pendant son règne où il se montre comme ce tableau de Marengo où on le voit avec un cheval blanc franchir le col, alors qu'en fait, il l'a franchi avec un âne quand même. Mais bon, voilà, les tableaux vont faire l'éloge de ses victoires.
Juste un mot, Marengo, c'est le peintre, c'est le cheval, c'est pas le peintre.
Marengo, c'est la bataille. C'est la bataille. Et le col de Marengo, il traverse à la bataille de Marengo. Pardon, Marengo, c'est le nom de la bataille. Et quand il traverse ce col en Italie, et on le voit traverser le col sur un cheval blanc, alors qu'en fait, il l'a traversé sur un mulet. La propagande doit le montrer dans toute sa splendeur. Et même à la fin de sa vie, le mémorial de Sainte-Hélène, qui finalement plus ou moins le moment où il écrit ses mémoires, enfin où il dicte ses mémoires, il réécrit complètement son histoire. C'est-à-dire que c'est un type qui a complètement compris que la propagande était un élément absolument essentiel pour sa légende.
Voilà, et si je me souviens bien, j'ai entendu dire aussi que Marengo, c'était son cheval préféré. Voilà pourquoi je vous posais la question.
C'est
la
possible, gloire, vous en savez plus que moi.
La gloire, je connais juste ça. La gloire et le pouvoir vont de pair avec la mort, que Bonaparte défie, vous venez de nous le dire, Mathieu Schwartz. Nouvel exemple avec un schéma identique à celui d'Arcole. Il tente sa chance, il échoue, mais il en fait un succès après coup. Il s'agit de l'épisode du coup d'État du 18 Brumaire, pendant lequel Bonaparte se présente devant les députés des deux chambres. On est en 1799. Que se passe-t-il ensuite ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il pense faire un coup d'État. Il pense faire un coup d'État assez tranquillement, un coup d'État, on va dire, de velours. Sauf qu'il est un peu pressé et il ne s'attend pas à ce que les députés résistent, parce qu'il n'a pas du tout l'habitude des parlementaires, c'est un militaire. Donc il essaye d'aller les convaincre, ça se passe très mal, il se prend quelques coups de poing, et il fait un malaise, il est évacué. Il a eu peur à ce moment-là. Ouais. C'est peut-être la seule fois de sa vie où il a eu peur.
Parce que là encore, c'est incroyable. Quand il se passe quelqu'un, quand il y a un homme politique qui fait un geste un peu très fort, on dit mais c'est le 18 Brumaire. Ouais. Or là, c'est l'inverse. Il l'a un peu raté, mais il l'a fait croire, sa légende a fait croire qu'il avait réussi son coup.
Alors en fait, il a réussi. Oui, surtout ce qui s'est passé, c'est que si vous voulez. En fait, il s'est fait un peu bousculer, mais c'est tout. Hein. Bon. Sauf qu'il a eu très peur parce que la foule, c'est quelque chose qui lui fait peur. Autant il n'a pas peur des balles, des fusils, autant la foule se faire
mais
lâcher.
Comment a-t-il retourné ça à son avantage?
Alors, il retourne ça à son avantage parce qu'en fait, en sortant, il va faire passer le mot qu'en fait, il a failli se faire assassiner parce qu'il y avait des poignards. Et notamment, il va être aidé notamment par son frère, qui est un de ses frères qui dirige l'Assemblée. On va dire, on a essayé d'assassiner Bonaparte, etc. Et donc, du coup, il devient une sorte de César qui a réussi. Parce que César, lui, il est mort sous les poignards au Sénat. Et lui, non. Lui, il a échappé aux poignards. Et du coup, ça renforce encore son aura.
Tu quoque et mi fili, toi aussi mon fils, c'était César. Napoléon parlait en français. On continue d'en parler avec Mathieu Schwartz. Documentaire très très intéressant et totalement inédit dans sa manière de voir l'histoire. Napoléon, la destinée ou la mort. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Mathieu Schwartz qui signe un documentaire passionnant, Napoléon, la destinée et la mort. C'est demain soir sur Arte à 20h50 où l'on apprend que Napoléon a échappé pas moins de 6 fois à la mort. On a parlé du coup d'État, on a parlé de 18 Brumaire. Napoléon, à la suite de quoi Bonaparte, est nommé consul, il dirige la France, il engage des réformes et il continue toutefois à être contesté. Et le voici, cible d'un attentat en plein Paris, près des Tuileries, rue Saint-Nicaise, rue qui n'existe plus aujourd'hui, ne la cherchez pas dans le plan, un attentat à la calèche piégée, d'une violence inhabituelle pour l'époque, c'est ce qu'explique Chantal Prévost, elle est responsable des bibliothèques de la Fondation Napoléon, on l'écoute.
L'attentat de la rue Nicaise a été un attentat extrêmement violent pour l'époque, et ça on a peut-être un peu oublié à l'heure actuelle l'impact sur la population du mode opératoire qui était tout à fait nouveau pour l'époque. C'est plus de 20 morts, c'est plus de 60 blessés, dont certains très graves. Ce sont des corps démembrés, ce sont des corps brûlés. En fait, c'est une scène de guerre en plein Paris. En quelque sorte, c'est le premier attentat terroriste moderne à Paris.
Encore une fois, Bonaparte frôle la mort et là, il s'en sert non pas pour construire sa légende, quoique il apparaît invincible, mais aussi pour asseoir son pouvoir. Que fait-il alors ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, il va utiliser la mort finalement pour rebondir. Donc, d'une part, il va éliminer. Il a deux problèmes. Il a les Jacobins et les Royalistes. Donc, il va d'abord éliminer les Jacobins, alors qu'en fait, c'est pas eux qui ont fait l'attentat.
On a su après que c'est les Royalistes.
Quand on va savoir que c'est les Royalistes, ils s'en doutaient déjà un petit peu. Il va aussi éliminer les Royalistes. Donc, il élimine en gros tous ses opposants politiques. Et en plus, il va profiter de l'émotion que ça a créée, parce que quand même, ça inquiète. On est à une période qui commence à être un petit peu plus stable. Le fait qu'il ait pu se faire assassiner inquiète la population. Il va en profiter pour renforcer son pouvoir et pour se faire nommer consul à vie, qui va être la dernière marche avant de devenir empereur.
Il se lance alors dans un grand programme de réforme de 1800-1803. Et c'est pendant cette période, justement, 1800-1803, qu'il rétablit l'esclavage. Vous n'en parlez pas dans le documentaire, pour quelle raison ?
Parce que c'est pas du tout, si vous voulez, c'était pas du tout le sujet. Là, on est sur un portrait psychologique de Napoléon, donc c'est un élément important, mais il y a plein de choses dont je ne parle pas sur Napoléon.
Dans les années qui suivent, il essuie ses premiers revers, la campagne de Russie notamment en 1812, des revers qui s'accumulent sur le champ de bataille. Il a des comportements parfois suicidaires, comme à Arcis-sur-Aube. Nous sommes en mars 1814, son armée recule. Et un mois plus tard, épisode totalement méconnu que j'ignorais, il tente de mettre fin à ses jours en avalant du poison. Pourquoi du poison et pourquoi le suicide ? Réponse de l'académicien Jean-Marie Rouard.
Il a le sentiment que sa destinée arrive à son terme. Et en même temps, c'est un homme de culture antique. C'est un homme de culture antique. Donc, il pense à tous ces hommes dans l'Antiquité qui ont mis fin à leur jour. Et au fond, je crois que c'est l'image qu'il veut donner. Il veut donner, pour la postérité, puisque c'est la question qui l'obsède, qui est la plus importante, eh bien d'un homme qui, finalement, n'a pas accepté d'être un vaincu. Et la façon de ne pas accepter d'être invaincu, c'est de quitter ce monde.
Alors, tentative de suicide, mais tentative seulement, il ne meurt pas. Comment échappe-t-il encore une fois à la mort ?
On n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Il avait du poison sur lui au cas où il tomberait dans une embuscade pour pouvoir effectivement mourir. Il boit ce poison. Et il ne meurt pas. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que le poison était éventé. Peut-être qu'il a appelé finalement assez vite. On ne sait pas parce qu'il y a eu plusieurs versions. Est-ce qu'il est resté longtemps seul ou pas ? On ne sait pas exactement. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il a vraiment bu ce poison et qu'il en est vraiment sorti. Ce qui le conforte encore une fois sur le fait qu'il a une destinée, qu'il doit continuer sa mission.
Épisode très méconnu, sinon je vais dire pour ma part totalement inconnu. Vous saviez avant de commencer ce documentaire que Napoléon a fait une tentative de suicide ?
Non, alors moi je ne le savais pas, évidemment tous les historiens le savent. Ouais. C'est vrai que c'est resté complètement
méconnu. Je vais poser la question différemment, pourquoi ça ne se sait pas ? C'est un événement majeur et c'est un personnage majeur.
C'est quelque chose que lui a complètement occulté après. Les premiers témoignages sont arrivés plusieurs années après sa mort. Et puis, c'est une petite tâche quand même dans ce personnage, si vous voulez, qui par ailleurs a dit après que le suicide, c'était pas la bonne voie, hein, qu'on pouvait mourir sur le champ de bataille, mais pas se suicider. Et donc, comme il y a eu toute une espèce de légende dorée après Napoléon qui l'a complètement magnifié, sans doute que c'est quelque chose qui est resté assez peu connu, en tout cas du grand public.
Je vais sauter des épisodes. Napoléon finit par abdiquer, il est envoyé sur l'île d'Elbe, il revient, ce sont les fameux 100 jours, là encore, un face-à-face avec la mort qui lui fait dire que sa bonne fortune est revenue, face-à-face avec l'armée royaliste, puis, je passe encore des détails, il est renvoyé à Sainte-Hélène, un îlot perdu dans l'Atlantique Sud. Là, il attend la mort, il ne la défie plus, il la prépare même, il veut la mettre en scène. De quelle manière ?
Déjà, pour la mettre en scène, il essaye de se transformer en martyr. Il va se transformer en martyr. Donc, il y a à Sainte-Hélène, il y a un gouverneur anglais qui est un peu obtus, qui s'appelle Hudson Lowe. Et donc, il va faire de ce gouverneur un méchant. Et donc, il va expliquer qu'il est complètement martyrisé et il va faire exprès de rester enfermé alors qu'on lui demande de sortir, etc., pour apparaître comme un martyr. Il a une phrase assez incroyable, il dit le martyr me dépouille, je crois, de ma peau de tyran. C'est-à-dire qu'il comprend très bien que là, il y a quelque chose, qu'il est en train de changer son image et que tous les aspects négatifs sont en train de disparaître sur le fait qu'il est brimé, qu'il est à Sainte-Hélène, que les Anglais sont des méchants et qu'il va mourir en martyr.
C'est étrange parce qu'il comprend la communication moderne où il faut toujours se faire passer pour une victime. Pour mettre un sujet historique à la télévision, il y a une question qui se pose toujours évidemment, c'est comment le mettre en image. Là, il n'y a pas d'image filmée de la vie de Napoléon et pour cause, il y a quelques tableaux, ceux de Gros, ceux de David, vous l'avez dit. Il y a aussi des lieux marquants, importants, Fontainebleau, l'île d'Elbe, mais ça ne suffit pas. Et vous, vous avez choisi, Mathieu Schwartz, le dessin, l'animation pour faire revivre certaines scènes. Pour quelle raison? Et ensuite, je vous demanderai comment.
Alors, je vais répondre un petit peu aux deux en même temps. C'était en fait l'animation, ça nous permettait à la fois de raconter l'introspection et l'action, si je puis dire. L'introspection, c'est-à-dire qu'on a un premier procédé qui est les moments justement avant ses morts, enfin avant ses confrontations avec la mort, où on voit Napoléon réfléchir, se poser des questions. Ça, en fait, c'est joué par un acteur. C'est un procédé qu'on appelle la rotoscopie. C'est joué par un acteur. Et ensuite, on redessine sur l'acteur. Ouais. Donc, c'est un personnage animé dans un décor réel. Et puis ensuite, on passe à l'action. Et donc là, c'est compliqué. Par exemple, la fiction, c'est compliqué dans l'action quand on a des batailles, etc. Et donc là, c'est du dessin. Et c'est le même dessinateur, si vous voulez, qui dessine sur le personnage, sur la rotoscopie, et ensuite dans les dessins de bataille, ce qui nous permet d'avoir le même Napoléon qu'on retrouve et d'avoir à la fois, de pouvoir à la fois raconter ces moments d'introspection et ces moments de bataille où là, c'est juste simplement des dessins avec des mouvements sur les dessins. Donc Arcole, par exemple, vous avez Napoléon qui réfléchit avant, avant la bataille. Donc là, c'est leur rotoscopie. Et après, hop, on passe dans la bataille dans la bataille d'Arcole. Et là, c'est du dessin.
Le nerf de la guerre, il y a beaucoup de producteurs qui nous écoutent. Le dessin, c'est moins cher ou c'est plus cher que de faire rejouer des scènes par des comédiens?
C'est pas moins cher, c'est très très cher l'animation, c'est très compliqué, ça me prend énormément de temps. C'était la première fois moi que je me confrontais à ça, la fiction aussi, hein, la vraie fiction. Moi j'ai fait un deuxième documentaire sur Napoléon qui passe la semaine d'après, qui passe le 8 mai, est avec de la fiction. Ça coûte cher aussi, mais il faut pas croire que l'animation c'est pas du tout des petits dessins qui vont permettre de faire ça à moindre coût. C'est très compliqué.
D'accord. On peut dire c'est combien la minute?
Alors, je ne peux pas vous dire, parce que franchement, je ne suis pas producteur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les budgets qu'on a eus pour faire ce premier film avec l'animation et celui qu'on a eu pour faire le film avec de la fiction, en fait, ils sont assez comparables.
Merci beaucoup, Mathieu Schwartz. Je le rappelle, Napoléon, la destinée et la mort, documentaire passionnant. C'est demain soir, donc sur Arte, 20h50. Documentaire dont le texte est dit par Denis Podalydès, ce qui ne gâche rien. Et puis le bicentenaire de la mort de Napoléon. Il lancera également largement question sur Europe 1 mercredi prochain. Europe 1 qui lance également un podcast consacré à Napoléon. Napoléon, c'est inconnu, 3 épisodes disponibles à partir de ce lundi. Soyons complets.